Luc 1, et je lis à partir du verset 46 que Daryl l'allume et on relit ce verset pour joindre les bouts. Et nous comprenons maintenant le contexte. Marie est allée dès qu'elle apprend donc la nouvelle qu'elle va être enceinte du Messie. Et elle se rend chez Élisabeth, et vous comprenez bien pourquoi, parce que l'ange Gabriel lui a dit, pour renforcer sa foi dans sa tendresse, il lui dit, ton parent, qui est vieille, est maintenant enceinte de 6 mois, car rien ne sera impossible à Dieu, donc repose-toi en confiance, que ce que je t'annonce, qui est le miracle des miracles, qui rend presque les autres miracles, je dirais même la résurrection dans un sens, en tout cas l'incarnation me semble être le plus grand. Et donc Marie reçoit cet encouragement vis-à-vis d'Élisabeth, pour lui montrer que ce qui lui arrive n'est pas impossible à Dieu. Et donc, elle se rend chez Élisabeth dans ce village, dans les montagnes de Juda. Marie, qui vient du nord d'Israël, de Galilée, elle descend le pays et se rend chez sa cousine. Et Marie dit, 46, « Mon âme exalte le Seigneur. » Elle est en train de répondre à Élisabeth. Rappelez-vous, excusez-moi, je vous rappelle le contexte. Dès son entrée, Élisabeth, Jean-Baptiste, le petit enfant dans son sein, est rempli de l'Esprit Saint. L'enfant tressaille et bouge dans son sein. Et elle-même, elle est remplie de l'Esprit Saint et elle prophétise. Et donc, elle dit... Donc, béni sois-tu entre les femmes et béni soit le fruit de ton sein. Et donc, que fait-il? Que la mère de mon Seigneur me rend visite. Parce qu'elle sait par l'inspiration que le Messie est dans le sein de sa jeune cousine. Donc, elle dit, en réponse à cette exclamation d'Élisabeth, « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit a de l'allégresse en Dieu, mon Sauveur. » Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. En fait, c'est le mot « doulos » de son esclave. Car voici, désormais, elle prophétise, et c'est une prophétie que vous pouvez vérifier. Vous savez fort bien que ça s'est réalisé. Il y a plus de 2000 ans, elle dit, « Car désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. » Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Et son nom est saint. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Maintenant, il y a une petite transition. Elle cesse de penser à elle-même. Elle pense aux retombées de cette naissance du Messie pour le monde entier. Elle dit, il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a fait descendre les puissants de leur trône, élevé les humbles, elle met dans le passé, elle part du futur. C'est assez commun, tellement est certain ces événements qu'elle le met dans le passé. On le trouve fréquemment dans l'écriture. Donc il a fait descendre les puissants de leur trône, élevé les humbles, rassasié de bien les affamés, renvoyé à vide les riches. Il a secouru Israël, son serviteur, et s'est souvenu de sa miséricorde. Comme il avait dit à nos pères, envers c'est-à-dire miséricorde dont elle vient de parler, miséricorde envers Abraham et sa descendance pour toujours. Elle est en train de regarder très loin dans l'avenir. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois. Elle est enceinte de 6 mois lorsqu'elle arrive, donc jusqu'à la naissance sans doute. Puis elle retourna chez elle. Les événements que nous venons de lire, l'annonce de l'ange d'abord à Zacharie, la manière dont il devient muet parce qu'il ne croit pas à l'ange, la manière dont sa femme, qui est très âgée, devient enceinte et se cache, la manière dont l'ange se rend ensuite chez Marie et elle pose cette question, mais comment est-ce possible car je suis vierge? Et l'ange lui répond que ça va être une puissance miraculeuse du Saint-Esprit qui viendra sur toi faire ce que l'homme ne va pas faire. Tous ces événements nous sont racontés par Luc seul, ce qui est très très intéressant. Ça aurait été une perte énorme pour nous si on n'avait pas ces informations, n'est-ce pas? Si on commençait seulement avec le ministère de Jésus comme Marc le fait ou comme Jean le fait, ou si on commence même avec Matthieu nous donne, mais sans tous ces événements. Parce que dans ces événements et dans les trois chants que nous retrouvons dans l'évangile de Luc, le Magnificat de Marie que nous étudions ce matin et le Bénédictus de Zacharie et le chant de Simeon que nous n'avons pas lu, Seigneur, tu laisses maintenant ton serviteur aller en paix. Trois chants devenus fameux. Nous avons le clin d'œil le plus grand et profond sur le chant chrétien, je vais dire chrétien, dans le Nouveau Testament. Nous avons la poésie la plus développée et belle dans le Nouveau Testament ici. Et nous avons des scènes qui se passent non pas comme le reste des évangiles, les scènes en public devant tout le monde, mais des scènes qui sont cachées de tout le monde, pratiquement. Ce sont des scènes familiales, qui sont des choses qui se passent dans la montagne de Juda, où Élisabeth est enceinte et personne ne voit, et des choses se disent entre Élisabeth et Marie, des choses très touchantes. Or, ce qui est bizarre pour nous, c'est que ces passages que nous venons de lire ce matin sont les passages les plus hébraïques, les plus hébreux des évangiles. Or, celui qui nous les écrit, Luc, est le seul auteur d'un évangile qui n'est pas hébreu. N'est-ce pas intéressant? Lorsque on lit ces passages en grec, on se rend compte qu'il est en train de toute la forme est hébraïque. Là, nous sommes encore dans la transition entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, et toutes les formes de pensée, pas simplement la forme, mais le contenu de ce qui est dit est très juif, très ancien, Ancien Testament. Or, c'est Luc qui est grec, qui est converti des décennies après, qui rejoint Paul dans ses voyages missionnaires, qui nous écrit. Et quand on compare ce passage-là avec le reste de son évangile, le style est complètement différent en grec. Il n'écrit pas comme ça. Un grec qui crie de manière hébraïque, il n'écrit pas comme ça d'habitude. Et nous voyons une preuve encore de l'inspiration de l'écriture lorsqu'il dit au début que, après avoir recherché auprès des témoins oculaires, je vous écris exactement ce qui s'est passé. On voit que c'est clair parce que c'est quelqu'un qui, très évidemment, est en train de nous raconter quelque chose qui lui a été dit par des juifs dans des scènes qu'il n'a pas vécues lui-même. C'est vraiment formidable. Et donc, nous voilà 6 mois après le début de la grossesse d'Élisabeth. Et maintenant, Marie se sait enceinte, elle, du Messie attendu depuis des siècles. Et à son grand étonnement, c'est elle qui a été choisie de toutes les femmes de l'histoire d'Israël. C'est moi. Comment est-ce qu'on se sent dans une telle situation? Et le texte nous dit qu'elle s'est rendue en hâte, verset 39. Marie se leva et s'empressa d'aller vers les montagnes dans une ville de Juda. La seule personne qui peut lui comprendre complètement, c'est Élisabeth, parce qu'elle aussi, elle est dans le coup. Elle est dans cette affaire où Dieu est en train de nous secouer tellement. On est joyeux, mais on est plein de crainte. Qu'est-ce qui nous arrive? Et donc, elle arrive, Élisabeth, la loue, et Marie répond par ces paroles que nous allons étudier. En trois temps, trois mots. Une joie inattendue et inimaginable, un renversement et un retournement bouleversant, et un accomplissement fidèle. Marie est dans la joie au sujet de ces trois choses. Et ces trois choses sont importantes pour nous, le texte est gardé pour nous. Parce que la manière dont Dieu lui vient et lui donne ce don d'être la maman du Messie, c'est la même manière dont il vient pour vous donner le même Christ comme sauveur. Et donc, attendons sur ces paroles un moment. Donc, nous commençons avec le premier. Marie se réjouit d'une joie, d'une bénédiction inattendue et inimaginable. Nous lisons donc à partir du verset 46, si vous pouvez revoir certaines de ces expressions avec moi au début, Marie dit, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit, elle parle de tout son cœur, elle dit son âme et son esprit, c'est pas les lèvres, c'est pas du bout des lèvres, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit a de l'allégresse en Dieu mon Sauveur. Pourquoi? Parce qu'il a jeté ses yeux sur la bassesse de sa servante. Et car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, et son nom est saint. L'Église de Rome utilise ce passage pour essayer de donner à Marie un statut et une condition différente que tous les hommes. Mais c'est exactement le contraire qu'elle dit. Il a jeté ses yeux sur la bassesse de sa servante. Elle dit qu'elle se réjouit en Dieu mon sauveur. Elle est quelqu'un qui reconnaît qu'elle a besoin d'être sauvée parce qu'elle est pécheresse. Parce que dans la piété de l'Ancien Testament, la première chose, la première raison pour laquelle on a besoin d'être sauvé, c'est parce qu'on est mauvais. Et rappelez-vous que Marie a grandi en chantant des chants comme le psaume 103, où on énumère les bénédictions. Rappelez-vous qu'Élisabeth dit qu'elle est bénie. Elle est d'accord, je suis béni. Mon âme bénit l'Éternel, que tout en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Quel est le premier bienfait? C'est lui qui pardonne toutes nos fautes. C'est son recueil à elle, à Marie. Elle a grandi en chantant que Dieu est mon sauveur, que je bénis parce qu'il, d'abord, il me pardonne toutes mes fautes. Donc, et elle parle de grâce. On parle de grâce. L'ange lui dit, Marie, la grâce t'a été faite. Ça, c'est un don immérité. Tu ne le mérites pas. Ce n'est pas comme si Marie était choisie parce qu'elle était spéciale elle-même. C'est juste le contraire. C'est une grâce. Ce n'est pas un dû. Ce n'est pas une réponse à un mérite. C'est une grâce. Et donc, elle dit dans le passage que la raison pour laquelle elle est bénie, elle est d'accord avec Élisabeth qu'elle a été bénie. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est en elle-même quelque chose de spécial, mais qu'elle a reçu quelque chose de spécial. Lisez avec moi encore. Elle dit qu'elle a de l'allégresse en Dieu son Sauveur parce qu'il a jeté ses yeux sur la bassesse de sa servante. Désormais, toutes les générations me diront bienheureuse parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Ce n'est pas parce que je suis grande et différente, mais parce que dans ma bassesse, l'Éternel a fait quelque chose de grand pour moi en me donnant le privilège d'être la mère du Messie. Nous voyons que l'accent est mis là. Et Marie est en train de penser, sans le comprendre complètement, nous le comprenons mieux qu'elle, que dans son sein est le Sauveur du monde. Et nous savons que dans son sein, il y a ce miracle du Dieu infini et éternel, Dieu le Fils, qui prend sur lui l'humanité pour devenir pour toujours dans une seule personne complètement Dieu et complètement homme. Et dans cette constitution mystérieuse et glorieuse de sa personne divine, humaine, nous avons le grand changement qui arrive dans la création, qui va permettre tout le salut. C'est comme le fondement sur lequel tout le salut peut être bâti. C'est la personne divino-humain de Jésus-Christ. Parce que pour la première fois, quand Dieu prend sur lui l'humanité de manière à être humain, Dieu s'est réconcilié avec l'humanité. Pour la première fois, il y a un homme qui peut regarder et dire, celui-ci est mon fils bien-aimé, en lui j'ai tout mon plaisir. Et tout le travail du salut va se bâtir par ce que peut être et faire cet homme qui fait en lui-même une union stable et éternelle entre le Dieu Saint et notre humanité qui ne va jamais se séparer de Dieu dans sa seule personne. C'est un miracle glorieux et mystérieux. Mais Marie, sans doute, ne comprend pas tout cela à l'époque, mais nous le comprenons. Et nous nous réjouissons dans ce que Dieu a fait pour elle. Elle tourne les yeux vers les autres dans son exclamation. Je trouve ça intéressant parce qu'au début, elle répond à Élisabeth en disant, oui, mon âme a de la joie en Dieu parce qu'il a fait de grandes choses pour moi. Mais elle ne s'arrête pas là. Elle dit au verset 50, sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Il n'est pas seulement miséricordieux envers moi. Ce n'est pas au sujet de moi, ces faits. Je suis là dans quelque chose d'immensément plus grand que moi, que Dieu fait, et vous aussi. Et elle dit, il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient des cœurs, dans le cœur des pensées orgueilleuses, elle regarde tous ces gens, Il a fait descendre les puissants de leur trône, élever les humbles, rassasier de bien les affamés, envoyer à vide les riches, secourir Israël, son serviteur. Et puis à la fin, elle parle de toute cette descendance d'Israël pour toujours. Donc, elle est en train, sans doute, je pense, de penser aux conséquences de la venue de Messie. Elle est juive, elle comprend les Écritures. Et elle se rappelle de ce que l'ange lui a dit. Parce que, est-ce que vous avez remarqué que dans son exclamation, elle dit ceci au verset 49. Le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. Puissance, sainteté. Si nous revenons en arrière vers les paroles de Gabriel au verset 31, nous lisons ceci. Il explique comment, comme elle est vierge, comment elle peut devenir la mère du Messie. Pardon, verset 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance, le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Le Tout-Puissant a fait des choses grandes pour moi, son nom est saint. Marie est en train de penser à la grandeur de Dieu, non seulement envers elle, mais pour tout le monde. Je dirais juste un détail avant d'aller plus loin, et les deux autres points seront plus faciles. L'ange lui dit au verset 32, il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. Partout où nous regardons dans les Écritures, on nous dit constamment que Jésus est celui qui est assis sur le trône de David. Paul annonce son évangile en Romains dans ces termes, il est selon la chair le fils de David, selon l'esprit le fils de Dieu. Et ça, c'est mon évangile. Pourquoi est-ce qu'il parle comme ça? Parce que il y a longtemps, Dieu avait fait une promesse au roi David, que nous retrouvons dans 2 Samuel 7, que un jour, je vais prendre un de tes descendants et je vais le mettre sur ton trône, le trône d'Israël, pour toujours. Alors, ça, c'est une promesse qui maintenant brise toutes nos catégories. Comment est-ce possible qu'un descendant de David ait un règne qui ne prend jamais fin? Et c'est exactement ce que Gabriel dit. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. Ésaïe le dit, Daniel le dit. Constamment, on nous dit que le Messie, quand il viendra, sera le descendant de David, dont il avait dit que son règne ne prendra jamais fin. Et c'est pour cela que dans le livre des Actes, dans Actes 2, Actes 13, quand Pierre prêche l'évangile, il dit des choses comme ceci, en expliquant la résurrection de Jésus, parce que la seule manière dont un descendant de David peut régner éternellement, c'est qu'il ressuscite d'entre les morts, de manière à ne plus être sujet à la mort, qu'il vainc la mort. Et donc David, Pierre en prêchant, dit ceci au sujet de la résurrection de Jésus. Un frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David. Comme il vient de citer que David parle du fait d'un ressuscité. Que David est mort. Il a été enseveli et son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Donc, c'est pas lui celui. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône éternellement, C'est la résurrection du Christ qu'il a prévu à annoncer en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Tout cela pour vous dire que dans la pensée de Marie, dans cette allégresse, dans l'annonce de Gabriel, il y a la promesse de quelque chose qui nous touche à nous tous, parce qu'il nous promet un sauveur, un roi qui va dominer et gouverner notre relation avec Dieu. Il va s'en occuper de votre relation avec Dieu. Tout ce qui ne va pas, il va réparer. C'est lui sur le trône de médiateur. C'est lui qui gouverne. C'est lui qui sauve et il le fera éternellement. La joie d'une bénédiction inattendue et inimaginable. C'est ce que Marie avait. Deuxièmement, la joie d'un renversement et un retournement complet. Vous avez peut-être été étonné de chanter tout à l'heure dans Minuit chrétien ce deuxième verset qui dit ceci. Puissant du jour, fier de votre grandeur, à votre orgueil, c'est de là qu'un Dieu prêche, courbez vos fronts devant le Rédempteur. C'est étonnant dans un chant de Noël, sauf si nous lisons les paroles de Marie, et d'ailleurs de Zacharie aussi, où maintenant, quand elle pense à ce que Dieu va accomplir à travers ce Messie dans son sein, elle dit ceci. C'est assez remarquable. Elle dit au verset 50, « Sa miséricorde s'étend d'âge en âge envers ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses, les arrogants. Il a fait descendre les puissants de leur trône, élevé les humbles, rassasié de bien les affamés, renvoyé à vide les riches. » Pourquoi est-ce que Marie pense à ça en lien avec la naissance de Jésus? Elle pense à cela parce que dans son choix en tant que fille de Judas, dans la ligne royale, mais qui n'a rien de royal parce qu'elle ne vit même pas dans la partie du territoire qui appartient à sa tribu, elle vit dans la partie la plus dédaignée d'Israël, le nord qui touche le pays païen, qu'on appelle Galilée des païens. N'est-ce pas? On appelait Galilée, Galilée des païens parce qu'il y avait tellement de commerce et de contacts entre les païens et Galilée que est-ce que quelque chose de bien peut venir de Nazareth, dit Nathanaël, n'est-ce pas? Et donc, elle est dans un petit bled, et les archéologues nous ont aidés parce qu'ils ont déterré Nazareth. Ils savent que c'est un petit bled au nord d'Israël. Voilà une femme inconnue, fiancée d'un artisan charpentier, et c'est elle la mère du Messie. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Et Marie, sans doute par inspiration, comprend que Dieu est en train d'accomplir en elle, de la manière, quelque chose qui fait tout au long de l'histoire, mais qui atteint son point culminant maintenant dans la venue de Messie. C'est quoi? C'est un renversement. C'est un retournement. Les puissants en influence, les intelligents, ceux qui sont en haut de l'échelle, de par leur force physique, de par leur intelligence, de par leur richesse, de par leur position, Dieu les renverse et il exalte l'humble servante et il sauve un peuple qui est plutôt humble et faible. Pourquoi comme cela? D'abord, il faut que vous compreniez que cela est une chose qui traverse l'histoire de la rédemption. Et Dieu est en train de le faire encore aujourd'hui. Par exemple, dans le prophète Jérémie, écoutez bien ce passage. Jérémie dit « Ainsi parle l'Éternel que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Et rappelez-vous que Marie avait dit en premier lieu, il a dispersé ce qui avait dans le cœur des pensées orgueilleuses. Le sage, les pensées, ceux qui s'exaltent parce qu'ils sont tellement intelligents. D'accord? Donc, je continue avec Jérémie. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force. Deuxièmement, Marie avait dit, il a fait descendre les puissants de leur trône, les forts, les intelligents et les forts, les influents. Troisièmement, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Et troisièmement, Marie dit, il a rassasié de bien les affamés, il a renvoyé à vide les riches. Dans la vie humaine, il y a trois manières dont on peut grimper l'échelle, dont on peut être avant les autres, au-dessus des autres. C'est par l'intelligence humaine, ou par la puissance humaine, ou par la richesse humaine. Et le problème avec ce principe, c'est que comme nous sommes pécheurs, nous utilisons, n'est-ce pas, notre intelligence, notre pouvoir ou nos richesses, comment? Comment est-ce que nous les utilisons? Pour servir les autres? Non, nous les utilisons pour arriver avant les autres, pour devenir au-dessus des autres. Moi, je vais avoir ce travail parce que j'ai plus d'argent pour glisser sur la table, ou je suis plus intelligent, ou je suis, n'est-ce pas? Et nous utilisons ces trois choses pour nous affirmer, pour nous placer devant les autres, pour gagner ce que nous voulons, pour être quelqu'un par rapport aux autres. Et donc, c'est un principe qui logiquement doit abaisser l'autre. Parce que si je veux être avant ou plus haut, et il faut que donc l'autre soit abaissé, n'est-ce pas? Et donc, la Bible, tout au long de la Bible, nous lisons que Dieu n'est pas content des puissants ou, en tout cas, les arrogants. Parce que vous voyez que le principe n'est pas, il n'y a rien de mauvais dans la richesse, l'intelligence ou la force. Et il arrive qu'un enfant de Dieu puisse les utiliser à bon escient. Mais le problème, c'est que dans notre péché, vous et moi, n'est-ce pas, lorsque nous avons ces choses, nous avons tendance à mettre notre confiance en nous-mêmes, en notre intelligence, en notre richesse, en notre pouvoir. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'exclus Dieu. Ça veut dire, et regardez le monde, ça marche selon ce principe. Je vais y arriver parce que je suis intelligent, riche ou puissant. Donc, la vie dépend, le secret de la vie et de l'avancement dépend de moi et de ces trois choses que j'ai. Cela exclut Dieu parce que la Bible dit le secret de la vie et d'y arriver dans la vie dépend de la bonté miséricordieuse de Dieu. C'est très différent, n'est-ce pas? D'une part, nous avons quelqu'un qui s'affirme, qui regarde, qui a besoin de la grandeur, qui a besoin d'être ceci et qui compte sur lui-même. Pas méchamment peut-être, mais qui exclut Dieu, c'est pas... Et de l'autre côté, nous avons ceux qui le craignent, comme Marie dit. La miséricorde de Dieu est sur ceux qui le craignent de génération en génération, qui se disent, peut-être j'ai de l'intelligence, mais ça va me rien donner de vraiment éternel et vraiment bien. Cela doit me venir de la miséricorde de mon Dieu. Voilà deux principes de vivre qui sont complètement différents. Un principe qui est satanique et qui détruit le monde, qui est en train de faire des ravages dans le monde aujourd'hui et qui fait des arrogants. Jusqu'au point où aujourd'hui, c'est une vertu de se vanter. Et on vous apprend à vous vanter sur vous-même pour gagner un poste, n'est-ce pas? Aujourd'hui. Au lieu de vous apprendre que le Dieu de la Providence vous aime, il vous ouvrira une porte si vous le craignez et vous dépendez de lui. C'est très différent, n'est-ce pas? Et Marie est en train de dire que lorsque Dieu sauve, écoutez bien, qu'est-ce qu'il est en train de faire quand il vient vous sauver? Simplement, vient vous délivrer de l'enfer? Non, il est en train de venir renverser un principe de mal qui vous tue. Et ce principe, c'est que c'est ça, c'est que vous cherchez à être au lieu de dépendre du Tout-Puissant qui a regardé ma bassesse. Et il renverse tout le principe en venant vers Marie à Nazareth et en faisant venir le Sauveur de cette manière. Toutes les générations vont appeler Marie bénie alors qu'on ne connaît rien sur son intelligence. Elle n'a pas de pouvoir, elle n'a pas de richesse. Et elle n'a pas de force. Et le monde entier et les générations vont l'appeler, ah, ça c'est une femme heureuse, bénie. Elle a eu vraiment une vie comme il faut. Pourquoi? L'Éternel, dans sa bonté, a regardé ma bassesse. Est-ce que vous êtes cette sorte de personne qui veut aller de l'avant parce que je suis beau, je suis fort, je suis intelligent, j'ai des dons? Ou je feinte de les avoir? Il y a les deux possibilités, n'est-ce pas? Je fais semblant de les avoir parce que ça, c'est le principe de ma vie. J'ai de la personnalité. Comme ça, je vais aller de l'avant parce que j'ai beaucoup de personnalité. C'est, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai, que je suis, qui est le secret de ma vie. Donc, pas besoin de cette miséricorde de Dieu, un Dieu qui regarde vers moi et qui dit, tu te confies en moi, je t'ouvre toutes les portes. C'est vraiment critique ce qui se passe ici à Marie. Parce que c'est par là que vous allez continuer sur ce chemin de perdition ou aller vers la vie éternelle en Dieu. Dernier point. La joie de Marie est une joie une bénédiction inimaginable, un renversement bouleversant et aussi un accomplissement fidèle. Parce qu'à la fin de son acclamation, Marie dit ceci, et c'est un changement de pensée. Elle ne parle plus tellement des orgueilleux, mais elle dit ceci. Il a secouru Israël, son serviteur, et s'est souvenu de sa miséricorde. S'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit dans le passé à nos pères, miséricorde envers Abraham et de sa descendance pour toujours. Et donc ici, à la fin de son exclamation, la pensée de Marie, inspirée par Dieu, va non pas vers la grandeur de la bénédiction, ni vers ce renversement, les arrogants sont abaissés et les humbles sont exaltés, mais sa pensée va vers la fidélité de Dieu. Dieu s'est souvenu de sa promesse d'autrefois. Et il est important pour nous de comprendre que la bénédiction et le salut nous viennent de cette manière-là. Pourquoi est-ce que c'est important? Nous devons comprendre que l'Évangile vient vers vous, cette réconciliation, cette bénédiction, cette vie éternelle avec Dieu, non pas comme une chose que vous cherchez d'abord, ou que vous inventez, mais quelque chose que Dieu avait pensé, avait promis avant que vous soyez. Avant que vous soyez. Ça doit être une chose qui tient de lui et pas de votre recherche, de votre envie. Parce que vos envies, ça varie, ça change, ça disparaît. Mais le salut est ancré en Dieu lui-même. Et notre bien dans la vie n'est pas d'essayer d'inventer, de chercher, de découvrir, même de créer. Nous arrivons au salut, au pardon, à la vie éternelle en tant que quelque chose qu'il y a longtemps. Dieu, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est grâce, parce qu'il est amour, c'est son plan, c'est son initiative, c'est sa pensée. Il a pensé avant que vous ne soyez. Il a parlé, il a dit, il a expliqué pendant des âges, avec zèle et fidélité, il a dit, voilà ce que je vais faire, et puis le moment venu, il a accompli. L'ange est venu vers Marie, et le Messie est arrivé, et il va tout droit à la croix. Il semble... Au moment où Marie parle, que Israël est tombé tellement bas que Israël ne peut plus être la source du Messie qui doit venir dans le monde. C'est vraiment une histoire horrible. Israël est tellement infidèle qu'elle est exilée. Et quand elle revient, c'est seulement un petit reste qui revient dans la Palestine. Et quand elle revient, elle est sous la tutelle de Rome, de l'Empire romain, et même quand Marie descend à Jérusalem, elle se rend compte que la foi, la piété, puisque c'est les pharisiens qui tiennent les rênes de la religion en Israël, c'est pas ça que Dieu veut. Et pourtant, c'est en ce moment-là que Dieu donne le Messie. Le plus grand moment de l'histoire d'Israël, c'est un moment où Israël le mérite le moins. Pourquoi est-ce que ça arrive? La fidélité de Dieu à lui-même, à son désir de nous bénir, à son amour, à son envie. Dieu est fidèle à sa promesse parce que sa promesse vient de son envie d'amour de nous sauver et pas de notre état ou comment nous avons fait et notre performance. Et donc Marie se réjouit de voir que c'est un peu illogique que ça arrive maintenant en Israël, que ça arrive ici, que ça arrive. Mais on appelle ça la fidélité de Dieu à sa détermination sainte de bénir l'humanité et de sauver un peuple pour lui-même. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que par rapport à ces trois choses, Dieu vous offre une bénédiction inimaginable. Est-ce que vous l'avez reçue en Jésus-Christ, le sauveur de votre âme? Est-ce que vous pouvez dire comme Marie, mon âme a de l'allégresse en Dieu, mon sauveur? Il s'offre à vous comme ça. Est-ce que vous avez vécu ce renversement de ne plus vivre dans cette arrogance de mes dons, mon pouvoir, c'est la clé de ma vie, et de dire non, là ma bassesse me met en contact avec la clé de ma vie, parce que la clé de ma vie, c'est la miséricorde de Dieu. Et est-ce que vous croyez à la promesse de Dieu que Dieu vous a fait dans sa fidélité? Fidèle à sa promesse, il dit, quiconque viendra au Sauveur ne sera pas mis dehors. Il a dit, il a fait, il le donne. C'est ça l'évangile. Il a promis, il l'a accompli en Jésus-Christ, et maintenant il donne ce Christ à vous pour que vous le preniez tel que vous êtes dans votre bassesse. Nous allons chanter « Quel amour merveilleux ». Vous l'avez sur la fiche que vous avez reçue.